Frères et sœurs, c'est de l'Éternel que nous recevons la grâce et la paix. Cela signifie que nous sommes toutes et tous les bienvenus ici même à l'Oratoire du Louvre. Qui que vous soyez, en entrant ici, vous ne serez l'hôte d'aucune famille étroite. Vous serez l'hôte de Dieu, autrement dit, le bienvenu. Et je souhaite tout particulièrement la bienvenue au professeur Élian Cuvillier qui enseigne le Nouveau Testament à la faculté de théologie protestante de la ville dont il ne faut pas dire le nom ces temps-ci. Frères et sœurs, plaçons-nous résolument devant l'Éternel par le chant du premier cantique indiqué dans le livret liturgique au début du psautier français « Bénissons Dieu, le seul Seigneur ». Oui, béni soit le Seigneur, il nous a aimés avant que nous le connaissions, il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions, il nous a donné le Christ Jésus pour nous faire découvrir l'amour, il nous a donné sa promesse pour que nous espérions, béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur qui vient à notre rencontre. Il nous donne sa parole, effectivement, qui nous fait connaître sa volonté. Par le Christ Jésus, c'est le chemin et la vie que nous découvrons. Il nous donne sa promesse, promesse qui nous rend joyeux dans l'espérance qu'il forme pour nous. Béni soit le Seigneur. Amen. Et je vous propose de poursuivre notre louange par le chant du psaume 107. Nous chanterons les strophes 1, 3 et 4 du psaume 107. Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière ? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendront, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière ? Des pécheurs aussi prêtent à des pécheurs pour qu'ils leur rendent la même somme. Au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Éternel, force est de constater la distance qui me sépare de ce que tu m'indiques et de ce que je parviens à accomplir. Force est d'observer tous ces jours où mes paroles dépassent même ma pensée et provoquent de profondes blessures. Pardon pour ces manquements, pardon pour ma faiblesse. Il y a des jours où je casse le fil de la relation qu'avec beaucoup de mal j'ai tissée. Pardon pour ma faiblesse. Il y a tant de jours où mes occupations, mes préoccupations m'éloignent de toi, Éternel, m'empêchent d'aller dans cette direction que tu m'indiques, de m'ouvrir à celles et ceux qui s'approchent de moi et me font oublier ton amour. Pardon pour ma faiblesse. Amen. Quand les collines s'effondreraient, dit l'Éternel, quand les collines chancelleraient, quand le sol se déroberait sous tes pas, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel, et je te garde ma miséricorde. Essayons de dire quelque chose de notre foi, essayons de dire quelque chose de ce que nous percevons de l'Éternel en disant que Dieu est amour. Par amour, Dieu, notre Père, crée le monde. Son Fils, Jésus-Christ, a vécu pour que l'amour naisse au cœur de tous les hommes. Son Esprit nous rend responsables et libres pour vivre de cet amour. Nous croyons que Dieu nous appelle aujourd'hui, comme chaque jour, à répondre à cet amour. Dans l'Église, comme artisans de vérité et de pardon, parmi nos contemporains, comme artisans de justice et de paix, dans son royaume, où l'amour éclaire toutes choses, nous affirmons que Dieu est amour, c'est ce que nous croyons. Amen.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 37 à 47. L'épisode se situe juste après la prédication de Pierre lors de la première Pentecôte. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur dit, « Metanoésate. Que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don de l'Esprit-Saint. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême. En ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. La crainte s'emparait de chacun et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'entremise des apôtres. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, ils étaient assidus au temple. D'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait. Je vous invite à chanter au cantique 83. Nous chantons de ce cantique 83 les strophes 1, 2 et 3. Cantique 83, les trois strophes.
notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense et le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi et qu'à chaque heure vers ta s'élève par la foi.
Nous prions. Notre Dieu, tu nous vois rassemblés ce matin venant d'horizons différents, d'opinions différentes, d'existences différentes, mais réunis par ce désir d'entendre ce que tu as à nous dire. Veuille maintenant faire taire en nous toute autre voix que la tienne. Veuille par ton esprit attester à nos esprits qu'ici et maintenant, la parole proclamée est ta parole pour chacune et chacun de nous. Frères et sœurs, chers amis, quelle belle histoire que celle de la première communauté chrétienne. Une histoire comme on voudrait pouvoir en vivre dans nos paroisses. Quel magnifique projet de vie, en effet, que propose ici Luc, l'auteur du livre des Actes. Un projet que ne renierait pas ceux qui veulent à toute force réveiller l'Église et qui, s'il semble inaccessible à la plupart d'entre nous, nourrit au moins notre imaginaire. Quel prédicateur ne rêve pas d'auditeurs 3000, excusez du peu, qui, à l'écoute de son dernier message, viendrait suppliant lui demander « Frère, que devons-nous faire ?» Des auditeurs qui, dans la foulée, recevraient le don de l'Esprit, seraient assidus à l'enseignement, à la communion fraternelle, à la prière. Sans oublier la cerise sur le gâteau qui retiendra aujourd'hui plus particulièrement mon attention, tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Pour un coup d'essai, ce fut quand même un coup de maître, cette première Pentecôte. Il la joue rupture radicale, ces nouveaux convertis. Mieux encore que Nuit debout, les casseurs en moins, l'irénisme évangélique en prime, non pas le point levé de la révolte, mais les mains ouvertes de la solidarité, du partage, de l'amour. Ce n'est plus seulement tous ensemble, mais tout en commun, tout en commun. Ce dont Luc nous parle ici, n'est-ce pas donc cette forme nouvelle de société que beaucoup attendent aujourd'hui, une utopie à vivre en somme. Trop beau pour être vrai, me direz-vous. Ben, je n'en sais rien. Après tout, ils l'ont bien fait, ces premiers chrétiens, et d'autres avant eux, en dehors du christianisme, et après eux, dans l'histoire de l'humanité, aussi en dehors du christianisme. Non, je n'en sais rien, après tout, si c'est trop beau pour être vrai. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce qui est raconté un peu plus loin et qui est la conséquence directe de cette utopie réalisée, de cette transparence des sentiments, de cette volonté de n'être qu'un tous ensemble réunis sans que plus aucune différence matérielle ou sociale ne nous distingue. Ce bel idéal du partage des biens et ses conséquences, je le trouve en effet raconté à partir d'Actes au chapitre 4 et au verset 32, où Luc réitère cette histoire, c'est-à-dire l'épisode du partage des biens. Je lis donc maintenant depuis le verset 32 du chapitre 4. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Et nul ne considérait comme sa propriété l'un quelconque de ses biens. Au contraire, il mettait tout en commun. Une grande puissance marquait le témoignage rendu par les apôtres à la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était à l'œuvre parmi eux. Nul parmi eux n'était indigent. En effet, ceux qui se trouvaient possesseurs de terrains ou de maisons, les vendaient, apportaient le prix des biens qu'ils avaient cédés et le déposaient aux pieds des apôtres. Chacun en recevait une part selon ses besoins. Ainsi, Joseph, surnommé Barnabas par les apôtres, ce qui signifie l'homme du réconfort, possédait un champ. C'était un Lévite originaire de Chypre. Il vendit son champ en apportant le montant et le déposa aux pieds des apôtres. Ainsi, un homme du nom d'Ananias vendit une propriété d'accord avec Saphira, sa femme. Puis de connivence avec elle, il retint une partie du prix, apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Mais Pierre dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ? Tu as menti à l'Esprit-Saint et tu as retenu une partie du prix du terrain. Ne pouvais-tu pas le garder sans le vendre ? Ou si tu le vendais, disposer du prix à ton gré ? Comment ce projet a-t-il pu te venir au cœur ? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, c'est à Dieu. » Quand il entendit ces mots, Ananias tomba et expira. Une grande crainte saisit tous ceux qui l'apprenaient. Les jeunes gens vinrent alors ensevelir le corps et l'emportèrent pour l'enterrer. 3 heures environ s'écoulèrent. Sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre l'interpella, « Dis-moi, c'est bien tel prix que vous avez vendu le terrain ?» Elle dit, « Oui, c'est bien ce prix-là. » Alors Pierre reprit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur ?»« Écoute, les pas de ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont à la porte, ils vont t'emporter toi aussi. » Aussitôt, elle tomba aux pieds de Pierre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer auprès de son mari. Une grande crainte saisit alors toute l'Église et tous ceux qui apprenaient cet événement. Après les enthousiasmes du commencement, voilà très vite venu le temps des réveils douloureux, et avec eux peut-être le temps de la lucidité. Voilà en effet, nous dit en substance Luc, où mène l'illusion que l'on peut se débarrasser de son besoin de garder quelque chose à soi. Voilà où conduit l'illusion que l'on peut tout partager. Voilà où conduit l'illusion de la transparence. À un moment donné, ce n'est tout simplement plus possible. Mais comme il faut pourtant continuer à montrer qu'on est comme les autres, voire mieux que les autres, on triche avec soi-même et avec les autres. Et c'est alors le règne du mensonge. On devient comme cette génération perverse dont Pierre, dans le premier texte que nous avons lu, demandait aux croyants de s'éloigner. Perverse, en grec, ça veut dire, ça se dit scoliosé, c'est-à-dire tordu. On veut tenir ensemble l'idéal et la réalité malheureusement moins reluisante qu'est notre besoin de posséder et notre médiocrité qui l'accompagne. Par devant, je suis généreux et en secret, j'en garde pour moi, jalousement. L'épisode d'Ananias et Saphira rappelle d'une manière particulièrement violente que l'enfer est pavé des meilleures intentions qui sont toujours, toujours, toujours les pires. Prétendre tout partager, c'est assurément ouvrir la voie au mensonge et à la dissimulation. L'homme n'est ni ange ni bête, disait Pascal. Le malheur est que qui veut faire l'ange fait la bête. Et j'ajoute, en songeant à Ananias tombant mort au pied d'un Pierre spectateur consentant de ce châtiment divin, qui veut faire l'ange fait naître aussi la bête en l'autre. Fut-il le prince des apôtres. Luc établit un lien étroit entre l'image idyllique du partage des biens et le mensonge et la violence auxquels immanquablement cet idéal aboutit. Il dénonce l'illusion dangereuse de ce communisme intégral. D'ailleurs, après cet épisode, il ne sera plus jamais question dans le livre des Actes de tout partager. Plus jamais. Car Luc, qui semble parfois nous raconter de belles histoires, n'est pas un utopiste naïf. Il n'a pas omis de raconter l'histoire d'Ananias et Saphira dans la continuité même du fantasme de la mise en commun des biens. Il nous dit ainsi en creux que cette histoire de partage intégral est dangereuse, mortelle même. En somme, c'est comme un fantasme. On peut en rêver, mais il ne faut pas essayer de le vivre. Alors, est-ce tout ce qu'il y a à retenir de ce passage? Veillez à ne pas céder aux illusions trompeuses. Ce n'est déjà pas si mal si nous lisons le texte avec cette lucidité critique. Mais le risque est alors, vous l'avez compris, de se contenter du statu quo. Et après tout, ça m'arrange. Des idéaux, des belles histoires à raconter, mais que surtout rien ne change dans ma façon de faire et d'agir. Or, dans le premier texte que nous vous avons lu, il y a évidemment plus que cela. Il y a beaucoup de choses, et je n'aurai pas le temps de m'arrêter sur toutes, mais il y a un mot qui permet de traverser, d'entendre le texte autrement, un mot qui offre une autre voie possible que les rêves de lendemain qui chantent et surtout déchantent, mais aussi une autre voix que le statu quo, un peu cynique, de celui qui sait comment tout cela se termine et qui donc ne change rien à ses habitudes. Un seul mot que vous avez remarqué peut-être tout à l'heure, je n'ai pas traduit quand j'ai lu le texte. Un mot qui dit pourtant l'essentiel. Métanoé, saté. Voilà le premier mot que Pierre répond à ceux qui viennent l'interroger. Métanoé, saté. Non pas le Pierre qui contemple Ananias mort à ses pieds et qui semble y voir la vérification d'une compréhension de la justice divine à faire fuir même les plus radicaux d'entre nous. Mais le Pierre qui répond aux frères, que ferons-nous ? D'auditeurs bouleversés par sa parole. Car Pierre, vous l'avez remarqué, ne demande pas que l'on partage ses biens. Il précisera même à Ananias qu'il n'était pas tenu de le faire. Premier mot qu'il prononce est donc celui-ci. Métanoé, saté. Alors si vous ouvrez vos Bibles, nos traductions donnent à ce verbe métanoein une connotation soit religieuse, se convertir, se repentir, soit éthique ou comportementaliste, changer radicalement, changer de comportement. Ce mot est composé de la préposition « méta », qui marque effectivement un changement de direction, et que l'on pourrait rendre par « à rebours ». Et puis du verbe « noéo », « penser ». L'invitation de Pierre, alors je propose de l'entendre aujourd'hui, penser à rebours. La métanoïa requise des auditeurs bouleversés désigne non pas d'abord un comportement religieux ou éthique, mais une façon singulière de penser, puisqu'il s'agit de penser à rebours. Mais à rebours de quoi ? De tout ce que nous pensons habituellement. La métanoïa ne consiste pas en effet à abandonner une attitude pour en choisir une autre. Abandonner une forme de pensée pour en choisir une qui serait strictement l'inverse de la précédente. Au fond, avant d'être chrétien, j'étais pour la propriété privée. Et maintenant, je suis pour le partage intégral. C'est ce qui se passe avec les premiers croyants. Mais cela, c'est toujours pensé dans le même sens. Je veux dire, selon la même logique, celle des choix idéologiques qui sont toujours binaires, blanc ou noir, de droite ou de gauche, qu'ils soient politiques ou religieux. Non, ici, c'est plus compliqué et plus intéressant. Il s'agit de penser à rebours, c'est-à-dire si José, par exemple, pour essayer d'approcher ce que signifie ce terme, mais c'est difficile, si j'utilisais une image informatique, changer le logiciel, le logos de notre pensée. Non pas, j'insiste, passer d'une pensée à l'autre, mais à l'intérieur de toutes les façons habituelles de penser, interroger notre pensée de l'intérieur. Remonter en quelque sorte le fil de notre pensée pour en sonder les impasses, l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de s'ouvrir à autre chose. J'insiste, la métanoïa n'est pas d'abord un faire, ou un refaire, ou un faire autrement. Elle est une pensée qui se laisse renverser pour pouvoir s'ouvrir à de l'inattendu. Si ce renversement de la pensée a certes des conséquences, nul ne peut dire à l'avance lesquelles, car elle concerne non pas d'abord un groupe, parce qu'on ne pense pas en groupe, mais elle concerne chacune et chacun singulièrement. Et donc les conséquences sont différentes pour les uns et pour les autres. Voilà, chers amis, frères et sœurs, au seuil de ce à quoi, je l'espère, l'écoute de l'Évangile nous conduit, dimanche après dimanche. Une métanoïa, un penser à rebours, c'est-à-dire un penser selon une autre logique, un autre logos, un autre discours, une autre cohérence, non pas du monde, mais une autre cohérence que celle que nous faisons fonctionner habituellement. Oui, le penser à rebours ne consiste pas à nous mettre contre le monde ou à juger que le monde pense mal et que nous pensons bien. Le penser à rebours nous interroge chacune et chacun, d'abord dans la façon dont nous faisons fonctionner notre pensée. Pas facile, me direz-vous, impossible même, si l'on en croit notre texte qui nous ramène bien vite à la réalité de la condition humaine, où les grands idéaux, les grandes décisions sont immanquablement suivies des attitudes médiocres et des renoncements en rase campagne. Mais ce n'est pourtant pas une raison de céder sur l'injonction à la métanoïa, aux pensées à rebours. Car, voyez-vous, il y a quelque chose de mystérieux dans la métanoïa. Pour qui se met à l'écoute de cette injonction ? Eh bien, la métanoïa ne nous invite pas à penser à rebours comme il s'agissait seulement d'un effort intellectuel à produire. J'ose dire que la métanoïa, par l'effet même de la parole qui la prononce, vient faire elle-même, vient commencer elle-même le travail en nous. Elle vient elle-même remonter le fil de notre pensée pour nous permettre de penser à rebours notre propre existence, pour nous la faire entrevoir autrement. Certes, le quotidien se chargera très vite de nous faire penser à l'endroit, c'est-à-dire selon les schémas habituels. Mais chaque fois que nous nous mettons à l'écoute de la parole, alors un penser à rebours devient possible, ne serait-ce qu'un instant. Mais cet instant est décisif, car il ouvre une brèche dans nos façons de penser. Là réside une ouverture possible pour notre existence à la fois singulière, mais aussi communautaire. Là réside la possibilité de laisser advenir autre chose que ce à quoi nous sommes habitués. Là réside la possibilité d'imaginer des alternatives impensées jusque-là, dans nos vies personnelles, dans l'Église, et qui sait peut-être, elle en a plus que jamais besoin dans la société. Au seuil de l'été, d'une période où d'autres activités vont nous occuper que les activités paroissiales, n'oublions pas, non pas de faire quelque chose, non pas même de penser à rebours, comme s'il s'agissait d'un effort de la volonté, mais de nous mettre à l'écoute de cette invitation. Là réside le viatique indispensable à notre bonne santé spirituelle et peut-être aussi l'aiguillon capable de nous tenir éveillés dans ce monde si complexe et si difficile au sein duquel nous vivons. Métanoé saté. Amen.
Frères et sœurs, je vous propose de prendre votre recueil de chants au cantique 222. Nous y chanterons les strophes 1, 2 et 3. Prenons place pour partager quelques informations dans notre calendrier. Tout d'abord, vous rappelez que cet après-midi à 16h aura lieu ici même le concert du chœur de l'oratoire. C'est la petite messe solennelle de Rossini. Si vous n'avez pas encore acheté votre place, il sera temps de le faire quelques instants avant le concert, qui aura donc lieu à 16h ici même. Dans notre agenda qui commence à s'alléger, mercredi a lieu la séquence de grec biblique pour les personnes avancées, c'est à 15h30, salle mono. Samedi 25 juin, c'est la possibilité pour vous de rejoindre le chœur de manière à préparer les chants du lendemain pour le culte. Donc c'est à 16h, ici même au temple. Et dimanche prochain, donc le culte à 10h30, présidé par moi-même, nous vous attendons 3000 si j'ai bien compris. N'attendez pas que je vous livre les paroles ultimes néanmoins, et prévoyez peut-être un peu de temps pour ne pas repartir immédiatement à 11h30, qu'on ait le temps de se saluer comme il se doit. Il y a, pour commencer à occuper vos journées estivales, le DVD sur le film « Protestants en France » qui est à votre disposition au comptoir librairie, ce documentaire qui était passé sur France 5 à la fin avril. Voilà pour ce qui est de notre agenda. C'est maintenant le moment de mettre nos biens en commun selon les modalités qui vous permettront d'être là dimanche prochain, que vous ne soyez pas terrassés. Chers frères et sœurs, nous allons maintenant partager le repas du Seigneur. Le pasteur Wilfred Mono, qui a sévi ici même au siècle dernier, disait que ce repas est la préfiguration du règne de Dieu. Il ajoutait: quel rêveur, quel réformateur, quel anarchiste a jamais proposé d'inviter le patron et le manœuvre au même repas, pour les faire boire à la même coupe? Et pourtant, la scène opère ce miracle. Il continuait en disant que l'éboueur y porte la coupe à ses lèvres et la passe au député qui boit après lui. Dans la simplicité de cet acte sans phrase, il y a quelque chose de surnaturel qui nous dépasse au point de nous troubler étrangement. L'Évangile y apparaît alors comme l'énergie égalitaire par excellence. Jusque-là, seule la mort pouvait prétendre nous rendre tous égaux face à elle. Toutefois, la mort crée brutalement une égalité involontaire entre ces personnes, tandis que l'Évangile suscite harmonieusement une égalité des vivants consciente et volontaire. Alors cette communion que nous célébrons tous autour de cette table est un bouleversement, peut-être une manière de penser à rebours l'humanité future, le germe de la nouvelle terre où la justice habitera. Wilfred Mono continue en disant que ce pain a une histoire et cette histoire nous intéresse. Parce que pour faire cette bouchée de pain qui nous est offerte à cette table, il a fallu presque un an d'effort et de collaboration obstinée avec la pluie et les rayons du soleil et tout le travail des hommes, du grenetier à l'agriculteur, du semeur au moissonneur, du transporteur au distributeur, du grossiste au meunier, du meunier au boulanger, du boulanger à cette table en passant par notre sacristain. Ce pain est alors la nourriture la plus noble qui existe. C'est le sacrement de la communion avec la nature généreuse et c'est le sacrement de la solidarité avec l'humanité au travail, qui a permis que cette nourriture soit sur cette table. Wilfred Mono, enfin, remarquait que ce pain est aussi le symbole d'une inégalité meurtrière. Qui possède le pain est maître de celui qui ne le possède pas. Un pain entre nos doigts est un attribut de pouvoir. Il nous octroie la puissance de dicter nos conditions à un affamé. Si un petit morceau de ce pain tombait sur la place centrale d'un village du Soudan, disait Wilfred Mono, on verrait alors des créatures déshumanisées se ruer avec frénésie vers ce trésor et se piétiner sans merci dans la poussière bientôt rougie par le sang. Voyez-vous, le morceau de pain est au centre du monde. Et le jour où l'humanité sera pleinement assurée d'en manger marquera l'avènement d'un genre humain où la dignité humaine sera avéré. C'est peut-être cela dont rêvait aussi le pasteur Martin Luther King. C'est alors qu'il se dégagera définitivement de l'animalité.
Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Prions. Notre Dieu, toi qui nous rassembles et nous invites, veuille réveiller en nous le désir et l'attente de la venue de ton Fils. Envoie ici ton Esprit Saint pour que nous recevions en ce pain et en ce vin la présence du Christ. Comme ce pain est fait d'épis autrefois dispersés et maintenant réunis, comme ce vin est fait de grappes autrefois éparses, qu'ainsi tous les hommes soient rassemblés dans ton amour et réunis un jour dans ton royaume. Et en communion avec tous les chrétiens de tous les temps, de tous les lieux, nous te disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
En toute simplicité, que celui qui a faim s'approche de cette table, que celui qui a soif vienne au repas du Seigneur qu'il préside lui-même. Nous sommes toutes et tous invités, nul ne peut être exclu de la table du Seigneur. Venez, car tout est prêt. Je suis le pain de vie. Celui qui mange ce pain n'aura jamais faim. Je suis la vigne. Celui qui croit au Fils aura la vie en abondance. Frères et sœurs, regagnons nos places, encouragés par l'amour révélé par la résurrection. Nous te remercions, Père, pour le repas que nous avons pris ensemble. Accorde-nous de vivre de cette nourriture, de te célébrer toujours avec joie et d'être ainsi témoin du Christ Jésus. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction au nom même de Dieu. Le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.